France Musique. Musicopolis. Liszt, un virtuose moderne. Vous êtes-vous déjà imaginé dans la peau d'un virtuose extraordinaire ? Quand je dis virtuose, je ne veux pas dire juste quelqu'un qui joue très très bien de son instrument. Plutôt le genre star, une exception, quelqu'un qui soit en dehors des normes, en dehors des critères habituels du jugement. Quelqu'un dont on peut dire par exemple, on le fêta, on lui donna des sérénades, une dame s'agenouilla et lui demanda la permission de lui baiser le bout des doigts. Une autre l'embrassa dans la salle de concert. Une troisième transvasa dans un flacon les restes de sa tasse de thé. Des centaines portaient des gants à son effigie. Beaucoup perdaient la raison. Tous voulaient la perdre. Un marchand d'objets d'art fabriqua des plaques de verre avec son portrait et les vendit comme bijoux. Des milliers briguaient ses faveurs et mendiaient son argent. Mais ce n'est encore rien par rapport à ses adieux. L'extravagance n'a jamais fêté un plus grand triomphe. Si vous ne vous êtes jamais imaginé ça, alors écoutez bien. Dans les années 1830 et 40, on parle en Europe d'une véritable listomania. Liszt parcourt les routes et les salles de concert, applaudi comme le messie du piano. On a bien du mal aujourd'hui à concevoir le succès extraordinaire qui a été celui de Liszt pendant toutes ses années de carrière comme virtuose. On a encore plus de mal à imaginer comment il a fait pour supporter la pression des concerts, la fatigue des tournées à l'époque des diligences, tout ce temps sans calme et sans repos, et cela encore plus en restant un être profondément généreux et humain. Liszt donne le dernier concert de sa carrière de virtuose début octobre 1847. Il fêtera ses 36 ans quelques jours plus tard. Depuis longtemps, il avait envie d'arrêter cette vie de saltimbanque. 9 ans plus tôt, il écrivait déjà à un ami « Suis-je condamné sans rémission à ce métier de baladin et d'amuseur de salon ?» Et néanmoins, jusqu'au bout, il a joué le jeu à fond. Ce concerto que nous écoutons, le premier de Liszt, même s'il a travaillé à sa composition dès 1830, n'était pas terminé lorsqu'il a achevé sa carrière de virtuose itinérant. Il ne le créera qu'en 1855, sous la direction de Berlioz. Et ses autres œuvres avec orchestre n'étaient pas terminées non plus. Ce n'est pas sur ce genre de composition qu'il comptait pour ses concerts. Il avait deux types de pièces dans ses programmes. D'une part, tout le grand répertoire pianistique tel qu'on le pratiquait alors, de Bach à Schumann, et d'autre part, tout un répertoire de virtuoses qu'on pourrait dire facile d'accès pour le public. Lorsqu'on sait que c'est un petit garçon de 12 ans qui compose et qui joue ses variations sur un thème de Rossini en 1824, on comprend évidemment qu'il ait suscité l'engouement. C'est en effet très tôt que Liszt commence cette fameuse carrière. D'abord comme enfant prodige, il a donné ses premiers concerts à 8 ans, dans une petite ville non loin de la campagne où il habite avec ses parents. Puis à Eisenstadt et à Presbourg, enfin à Vienne, où il prend des leçons avec Czerny. À Paris ensuite, il devient vite la coqueluche des salons. Et s'il prend des leçons de composition avec Paer et Reicha, les meilleurs professeurs à ce moment-là sur la place, ce qui retient l'attention du public, ce sont plutôt ses acrobaties pianistiques, sa mémoire extraordinaire, en bref, son côté singe savant. Le jeune Liszt, comme on l'appelle, ou même à Paris, le petit Litz, joue, compose, donne des leçons, fait des tournées, se fatigue, au point qu'on annonce sa mort en 1828. Il a tout juste 17 ans, démenti aussitôt dans les journaux. Son nom est sur toutes les lèvres. Il apparaît dans tous les concerts, en particulier les concerts de charité, puisque son esprit généreux le pousse à accepter toute participation qu'on lui demande pour une bonne cause. Des études ont montré qu'au pic de sa carrière, notre virtuose donne environ un tiers de ce qu'il gagne. En mars 1833, par exemple, il est au Vauxhall à Paris, avec Garcia Fils, Berlioz, Nourrit, etc., pour un concert au profit des indigents, qui, selon La Quotidienne, a été à la fois une bonne œuvre et une séance brillante. Liszt joue ce jour-là le Concertstück de Weber. Thank you. Le Concertstück de Weber a été exécuté par Liszt, nous dit le journal La Quotidienne du 30 mars 1833, avec cette chaleur, cette véhémence, cette impétuosité, cette expression fière et puissante qui déborde dans l'âme de cet artiste. Ajoutez à cela une organisation en quelque sorte gigantesque, et vous concevrez l'effet qu'a dû produire cette œuvre. Les compliments adressés à Liszt ne vont pas sans quelques critiques. Selon La Quotidienne, quelques personnes s'intéressant vivement au succès du jeune pianiste et désirant sans doute le voir réaliser la perfection qu'elles conçoivent, ont déploré en lui une certaine exagération de manière, une expression affectée, tranchons le mot, un charlatanisme d'exécution qui, selon elles, nuise singulièrement à son talent. Il est tout simple que des gens qui ne sentent rien reprochent à un artiste comme Liszt de sentir trop. Et il est naturel, après cela, qu'ils exaltent certains virtuoses bien connus, dont le jeu élégamment glacial, la mise recherchée, le sourire gracieux, réveillent tout juste la dose d'émotion que les gens dont je parle sont capables de supporter. Il est vrai que Liszt, notre virtuose, n'est pas le seul sur le marché à son époque. On peut même dire qu'on trouve pléthore de ses collègues dans toutes les capitales et jusque dans les plus petites villes capables d'accueillir des concerts. Bien sûr, on les compare. Au point qu'une dame du monde, la princesse de Belgio-Joso, va organiser un duel en bonne et due forme entre Liszt et Thalberg, autre jeune pianiste et compositeur célébré par le public. À l'heure dite, nous informe le journal des débats, le combat a commencé entre les nobles champions. L'ajout terminé, conclut le journal, Liszt et Thalberg ont été proclamés tous les deux vainqueurs par cette brillante et intelligente assemblée. Ainsi donc, deux vainqueurs et pas un vaincu. Et toc. D'autres témoignages penchent pourtant en faveur de Liszt, mais la princesse de Belgio-Joso devait clore tous les becs en déclarant avec une diplomatie exemplaire « Thalberg est le premier pianiste du monde, Liszt est le seul. » La carrière de virtuose de Liszt peut se découper en plusieurs périodes. Celle de sa prime jeunesse, on pourrait dire enfance et adolescence, puis l'époque du jeune adulte, il a 19 ans, en 1830. En 1835, sa trajectoire marque un arrêt. C'est l'année où il part en Suisse avec Marie Dagout, une femme mariée, pour échapper aux diatribes du beau monde parisien. Certes, il donne quelques concerts pendant les années qui suivent, mais ce n'est qu'en 1839 qu'il reprend véritablement les routes pour subvenir aux besoins de sa famille, sa compagne Marie et leurs trois enfants. On appelle cette période la Glanzzeit, sa période de lumière, de splendeur. C'est à ce moment-là qu'il devient le modèle du virtuose moderne. Je pourrais même dire qu'il invente le virtuose moderne. Déjà, il invente le soliloque musical. Pour la première fois, on voit un artiste seul en scène, contrairement à l'usage qui était de réunir chanteurs, instrumentistes divers, parfois orchestres, pour une soirée qui ressemblait à un véritable patchwork musical. Lui joue tout seul et il consacre parfois ses récitals, le mot est inventé pour lui en Angleterre, à un seul compositeur du jamais vu. Les années de gloire de Liszt se succèdent. Il joue seul sur scène, la musique d'autres compositeurs, mais aussi beaucoup ses propres œuvres, qu'il choisit de manière à satisfaire le goût du public. Donc, des œuvres le plus souvent faites de variations ou de paraphrases d'opéra en vogue, assaisonnées de beaucoup d'acrobatie et de pyrotechnie. Il joue par cœur. Il tourne le couvercle du piano de manière à ce que le son de l'instrument se dirige vers la salle. Il fascine ses auditoires. Les critiques n'ont plus de mots pour décrire ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. À Vienne, son succès est phénoménal. À Budapest, il est accueilli en héros national. On lui offre un sabre d'honneur. À Berlin, pour Liszt, c'est le summum du succès auquel peut prétendre un simple mortel. Le compte-rendu de son départ, écrit par le critique Ludwig Rellstab, peut en donner une idée. « Sur la Schlossplatz, écrit-il, une multitude innombrable. Un riche carrosse, attelé de 6 chevaux blancs, attendait devant l'hôtel de l'artiste. Liszt fut porté sur l'escalier par la foule, élevé et déposé dans le carrosse, tandis que les gens hurlaient. 30 attelages à 4 chevaux et une foule d'étudiants à cheval, en costume d'apparat, escortaient son carrosse. De nombreuses voitures accompagnaient le cortège qui descendit par l'Unter den Linden jusqu'à la place destinée au monument de Frédéric le Grand, puis de la Königstrasse jusqu'à la porte de Francfort. chaussées et trottoirs partout archibondés. Le public ne cessait de crier « Vivat !» Il s'en alla comme un roi, entouré par une foule criant d'allégresse, comme un roi du royaume impérissable de l'esprit. Liszt a profité de sa vie de virtuose. Il l'a sans doute aimé au début, mais plus le temps passe, plus il se lasse. Il se fait l'effet d'un amuseur public qui n'a même pas le loisir de s'interrompre pour réfléchir et pour créer les grandes œuvres auxquelles il songe. Fin septembre 1847, il donne ses 4 derniers concerts à Elisabethgrad, en Ukraine. Du moins, ses derniers concerts payants, puisque dorénavant, il se produira sans se faire payer, par pure générosité. En 1840, le Charivari publiait un court article. La moitié de la chevelure de Monsieur Liszt est arrivée à Paris. L'autre moitié arrivera plus tard avec son sabre. Peste ! Tous les facteurs se sont réunis pour confectionner à cet artiste un piano sur lequel il pourra danser, frapper et faire ses tours de force. On dit que Monsieur Liszt a composé un nouveau galop chromatique d'une difficulté infernale. La grandeur de ses mains ne suffisant plus à l'exécution de sa musique, il a ajouté à chacun de ses doigts une baguette de tambour. Le grand galop chromatique de Liszt, Goran Filipetz au piano. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Jai Zantaus pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.